pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Vendredi 9 juin, s'est tenue au local de l'école émancipée la première réunion publique de « Ne tournons pas la page ». Nous avions envie d'en savoir plus sur la composition de ce collectif, ses motivations et ses perspectives.
On va faire une première partie de présentation de ce qu'on a accompli comme boulot. On t'écoute, Philippe.
Bon, alors, première chose, on va essayer de se présenter. Parce que ça, c'est des questions qu'on reçoit. Mais vous êtes qui d'abord? Il y a qui derrière? Enfin, bon. Alors, on est, je pourrais presque dire une bande de potes.
Voilà, mais on est devenu ça. En fait, on est un comité, on est une force militante qui s'est constituée à partir de la grève et de la lutte de l'incinérateur d'Issy-les-Moulineaux. Nous, on est promoteurs de ce texte-là. Nous ne tournons pas la page. C'est-à-dire que, fondamentalement, on ne veut pas qu'on arrête de parler des retraites et on ne veut pas que la lutte contre cette satanée réforme s'arrête. Bon, c'est le point de départ. Alors, le noyau dur, on va dire, c'est ça. C'est la lutte d'Issy-les-Moulineaux sur l'incinérateur. La Tirue, hein, d'Issy-les-Moulineaux. Après, bon, on a un peu agrégé. Il y a des gens qui viennent d'autres horizons, mais qui sont investis sur ce projet aussi plus récemment. D'abord, la grève elle-même, alors, elle a commencé le 7 mars. Même Laurent Berger avait dit que, voilà, au moins une journée, pas plus, on allait bloquer le pays. Du 7 au 24 mars, il y a eu une grève. Et puis ensuite, la grève s'est arrêtée. Elle a repris du 13 au 18 avril. Entre-temps et après, les soutiens dont nous étions, pour la plupart, ont eu pour tâche de perturber le fonctionnement par complet, voilà, de faire en sorte que cet incinérateur ne soit pas complètement à l'arrêt, mais que ça boite. C'est-à-dire qu'on a filtré les camions, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de véhicules qui rentrent et qui déchargent leurs ordures, etc. C'était notre rôle pendant un certain temps, et puis après, bon, bah voilà, la grève s'est arrêtée pour de bon, et puis nous-mêmes, voilà, on a eu les keufs, on a vu à quoi ça ressemblait de près, et puis voilà, on a été repoussé. Bon, en fait, c'était des gardes, on se relayait, il y avait souvent la nuit, il y avait le jour, il y avait le petit matin, où il y avait souvent le petit matin, c'est le moment où les keufs ils arrivaient, bon, voilà. Alors, il y a eu un grand moment où. Un employé municipal de la ville de Paris, quand il devait décharger les ordures, il les a déchargées devant l'entrée de la Tirue. Et ça a été un truc absolument époustouflant. Personne ne s'attendait à ça. Donc d'un seul coup, il y a la benne qui se lève, et puis des monceaux d'ordures qui viennent jusque chatouiller les narines de toute la FIFA qui était là pour faire arrêter la grève. Bon, ça, c'était un moment. Qui on était au départ, qui on est toujours d'ailleurs en principe. On est de différents horizons. Il y avait des gens qui étaient des travailleurs en grève. Hein. La grève, ça dégage du temps, donc ça permet de faire des trucs, surtout si on est dans un secteur qui n'est pas très, très, mobilisé. On fait des choses comme aider un blocage dans un centre d'incinération. Il y avait aussi des gens qui militaient sur leur temps libre. Des retraités comme moi, des chômeurs, des étudiants. En gros, ça venait de toute la région parisienne. Ce qu'il faut dire, c'est que
je crois que personne ici, peut-être quelques rares exceptions, mais je ne sais même pas, ne se connaissait avant cette expérience de la Tirulie. Personne. Et c'est assez fantastique comment une expérience comme ça construit du lien et construit est susceptible de faire émerger une force militante. C'est un peu la leçon qu'on peut tirer de tout ça et qui est très, très chouette. On s'est organisé et c'est là où il y a eu le CA3I. C'est quoi? C'est le comité d'action interpro et intergénérationnel d'ici. Il a fallu tenir le piquet pendant 40 jours, donc il fallait avoir un minimum de structure. Il fallait un petit peu s'organiser, d'abord de façon assez informelle et puis de façon de plus en plus régulière, de plus en plus construite. Et c'est comme ça que CAI, ce CA3I, est apparu. Après, la grève s'est terminée. La lutte s'est terminée sur le centre d'incinération. Donc, il fallait continuer. On a continué à garder des liens militants et à agir ensemble. Il y a eu le piquet de grève du Civol dans le 91, à la limite du 91 et du 77, qui ont tenu une grève de plus d'un mois. Et donc là, c'était un peu perpète les oies, c'est pas facile d'accès, etc. Mais on y allait, à plusieurs, on s'est relayés, on a soutenu les grévistes, on a discuté avec eux. Bon, j'avais un patron qui était le maire de la ville de Comblaville, qui est une pourriture finie, et donc vraiment le genre d'ordure. On a vu comment ça se passait au conseil municipal, il y avait des tas de choses à décrire, c'est abominable. On a fait aussi une apparition quand Macron est allé assister au match de foot au Stade de France, à la finale de la Coupe de France. On était là pour distribuer des sifflets, des cartons rouges, etc., qui ont été récupérés par les keufs. Ensuite, on a aussi participé à la mobilisation contre le Service National Universel, le SNU, les villages du SNU, ces espèces de trucs gonflés en caoutchouc hideux et généralement vides, qui nous imposent partout pour nous attirer, attirer notre jeunesse vers l'armée. Alors on l'a fait à Versailles, où là on a eu droit à de la police montée, hein. Il y avait des chevaux pour nous accueillir, c'était sympa. Et puis aussi à Paris, on était devant le square des Citroën. Alors on a fait aussi pas mal de casserolades, hein, de différentes sortes. Alors nous, il y a peut-être une tête de Turc un peu favorite pour nous, c'est notre grand écrivain de ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et sa prose pornographique qui nous a beaucoup inspirés. Sinon, on a fait aussi une autre chose, c'était qu'il y a eu une mobilisation sur le lycée professionnel Théodore Monod, parce que parmi les exactions multiples et variées de ce gouvernement, il y a aussi la destruction des lycées professionnels. Et donc, on est allé là-bas soutenir le piquet, un piquet de non-grève, en fait, que tenaient les enseignants avec les élèves, etc. En fait, on n'a pas arrêté de mars, avril à jusqu'à juin. En réalité, c'était un peu... sur tous les fronts, et voilà, ça a permis de créer un vrai collectif. Quoi. On n'a pas seulement bloqué des bennes ordures et fait des choses comme ça, il y a aussi un peu d'élaboration, on a écrit des textes. Alors d'abord, il y a eu une première chose, c'était un appel aux syndicalistes à faire des AG sur leur lieu de travail, début avril, pour que la conduite de la grève ne leur échappe pas. Ça, c'est une question... Alors, en tout cas, l'intention était bonne. C'était un peu un élément qui préfigurait cette adresse que maintenant on fait signer. Et puis alors, il y a eu autre chose après, c'était ce qui s'est appelé le journal des bonnes nouvelles. Alors c'était quoi? Toutes les mauvaises nouvelles de Macron, c'est des bonnes nouvelles pour tout le monde en fait. Voilà, donc chaque fois qu'il y a, je sais pas, une merde de chien qui tombe sur les pompes à Macron, ça fait un point. Chaque fois qu'on lui coupe l'électricité, c'est des bonnes nouvelles. Chaque fois que, plus belle nouvelle, c'est quand le prince Charles, voilà, le Charles III, devait venir à Versailles avec lui et que sa visite était annulée. C'est aussi le président algérien qui a pas pu venir. Puis alors, voilà, vraiment, toute la mise en sobriété énergétique, c'est le terme des écrivains qui me plaît beaucoup, systématique, d'abord en Alsace, ensuite dans le lycée professionnel là-bas à Saintes. Il arrivait plein de malheurs à Macron et on a vraiment pris plaisir à s'en réjouir. Donc ça, c'était un truc, ça sert à donner le moral un peu aux gens qui luttent. La dernière contribution qu'on a, c'est cette adresse-là, maintenant qu'on essaye de faire signer le plus massivement possible aux directions syndicales.
Le prochain son, c'est une reprise, faut toujours en faire une. Du coup, ça remonte à 95. On va chanter tous ensemble, machin, tout ça. Ok, allez, la retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. Ouvrez la cage aux soixantenaires qui fassent des promenades. Du jardinage et du bricolage, des mots croisés et puis du sport. Et aussi du soutien scolaire, qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite.
Alors, du coup, maintenant, effectivement, on va présenter la campagne, nous ne tournons pas la page. Et pour comprendre comment on en arrive à sortir un tel texte, il faut revenir un peu en janvier. En fait, déjà, Macron, dès 2017, il devait faire sa réforme des retraites. Et en fait, c'est plus très bien en tête, mais je crois, dès 2017-2018, il y a déjà une grève des raffineurs qui a reporté la réforme des retraites. Puis il y a eu les émeutes des Gilets jaunes qui a reporté la réforme des retraites. Et une fois passé tout ça, il y a eu effectivement le projet de loi de 2019-2020. Quoi. Donc déjà, il y a eu deux grèves, deux mouvements massifs qui ont repoussé la réforme des retraites. En 2020, par la grève, on a obtenu le retrait. La réforme des retraites par points. Alors Macron a dit que c'était à cause du Covid, du confinement, qu'il suspendait l'attaque. Mais moi, j'ai jamais cru à cette histoire-là. Et les éléments qui pourraient être confirmés, c'est que dès le déconfinement, il a annoncé, donc c'est dès juillet 2020, dans le Parisien, qu'il allait reprendre la réforme. Il n'y a pas eu d'effet. En juin 2021, il réannonce qu'il va le faire. Et là, il y a le MEDEF qui répond dans les échos en disant « Non, c'est pas possible, t'as plus de capital politique, et si tu le fais, on risque des émeutes en France. » C'est hors de question. On a cette idée que bon, Macron aimerait bien aller au combat, mais le MEDEF a dit « Stop, c'est pas possible. » On s'est bien l'idée que s'il avait continué dès le printemps 2020, il lui pétait à la gueule. Donc moi, je pense que c'est bien les grèves qui ont fait arrêter le projet de retraite par points en 2020. Et ce qui est très perturbant, c'est que Macron annonce donc dès juin 2020 qu'il va attaquer, juillet 2020, il va attaquer. Et quelles étaient les réactions des directions syndicales? Aucune. Donc aucune préparation en 2020, aucune préparation en 2021 et aucune préparation en 2022. Quoi. En sachant qu'une armée de macronistes allait de nouveau essayer de conquérir notre territoire social, qu'on fait l'état-major des syndicats, rien, zéro préparation, aucune tranchée de creuser. Quoi. C'est référence évidemment à l'Ukraine. Troisième point, effectivement, il a voulu faire son attaque dès sa réélection, au printemps 2022, mais manque de bol, il y a eu les grèves de nouveau des raffineurs, et donc ça a de nouveau repoussé son attaque du coup à janvier, on n'a plus l'année là.
23.
Janvier 2023, c'est ça. on parle tout le temps des JO 2024, ça me perd tout le temps. Et donc, effectivement, est-ce que les directions des syndicats ont appelé à faire grève en même temps que les raffineurs pour faire reculer Macron? Non. Donc, on a laissé les raffineurs tout seuls se démerder, alors que tout le monde en parlait, que tout le monde était à cran là-dessus, et que ça montrait que c'était une lutte d'ampleur, il y a eu zéro aide, zéro appel. Voilà, donc zéro préparation là-dessus. Pourquoi? Parce que toute l'année 2022, donc moi, en tant que syndiqué, dès, je sais pas, janvier-février 2022, j'ai reçu des mails sur, voilà, en décembre, il y a des élections, on a besoin de monde, blablabla, blablabla. Donc toute l'année, on nous a seriné sur les élections professionnelles dans la fonction publique. Et en même temps, ils ont rencontré Macron, Borne, les conseillers, etc., pour savoir quel est le contenu de l'attaque, comme si c'était un mystère. 10 janvier, Borne annonce qu'elle va nous mettre 2 ans de plus dans la figure. Donc là, on sent que c'est chaud et qu'il y a urgence. Que fait l'intersyndicale? Elle annonce une première grève le 19, donc 9 jours plus tard. Et en fait, ça a été tout le temps comme ça. Dès qu'il y a une annonce, dès que c'est un peu chaud, bim, on repousse, etc. Quoi. Le 19 janvier, 2 millions de manifestants. C'est le meilleur démarrage pour une journée de grève depuis des dizaines d'années. Communiqué l'intersyndicale, une puissante mobilisation qui oblige au retrait. Super, je cite le texte. Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situation. Donc ça veut dire que si Intersyndicale devait bloquer le pays, ça serait à contre-cœur. C'est Macron qui est contraint à aller vers là où elle ne veut pas aller. Alors, au vu de ce succès, l'Intersyndicale aurait dû appeler à la grève dès le mardi 24, donc on passe du jeudi au mardi, ben non. Prochaine journée, le 31 janvier, donc 2 jours plus tard. Donc c'est incroyable qu'il y ait une journée incroyable, plus fort démarrage du 21e siècle en France, c'est ça le truc, et il n'y a rien derrière. Il faut encore attendre 12 jours pour qu'il se passe quelque chose. Un autre exemple, lundi février, début de l'examen de la loi à l'Assemblée nationale. Quand est-ce qu'on fait grève? Le lendemain. Donc pareil, c'est un coup dans l'eau. Samedi 11 février, on en est à la 4e journée de mobilisation. Les syndicats de la RATP appellent à reconductible pour le 7 mars. Donc on se teste 3 semaines pour organiser ce truc-là. Que dit l'intersyndicale? Je cite. Enfin, si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, l'intersyndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités, à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. L'intersyndicale se saisira du 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes, blablabla, donc il n'y aura rien le 8 mars. Quoi. Donc peut-être qu'ils feront un truc le 7 mars, mais ce n'est pas encore sûr. Là aussi, ça dépendra de Macron. Quoi. 22 février, communiqué d'intersyndicale, ensemble le 7 mars, mettons la France à l'arrêt. Donc ils appellent effectivement à un seul jour. Donc ils n'ont jamais appelé à une générale, ils n'ont jamais appelé à une grève reconductible sur X ou Y. Ils ont appelé à faire une journée noire le 7 mars, c'est le maximum qu'ait fait l'intersyndicale. Le 7 mars, c'est un succès. Tout le monde a compris que c'était important, donc il y a plein de secteurs qui partent en reconductible. Pareil, ils sont vraiment bien à communiquer. Quoi. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. L'intersyndicale prévient que, attention, si Macron continue, ça peut péter. C'est toujours pareil, l'intersyndicale ne veut pas que ça pète, ne veut pas que ça devienne explosif, et donc leur base et les travailleurs, eux, veulent y aller. Donc on sent vraiment que l'intersyndicale était toujours un vrai partenaire à expliquer à Macron que ça va être la merde, mais c'était pas le rôle intersyndical d'organiser l'explosion. Quoi. Jeudi 16 mars, 49.3 de Borne, grève, donc dès le soir, il y a des grèves spontanées dans plusieurs usines. Et réponse intersyndicale, on se retrouve le jeudi 23, donc dans une semaine. Donc pareil, quand ça devient chaud bouillant, quand il y a un passage en force et les gens, il y a des manifs spontanées dans toute la France, bah, il n'y a rien, quoi. Aucune réaction, attend encore une semaine. Jeudi 23 mars, 9e journée, donc il y a des secteurs qui sont déjà reconductibles depuis déjà 2 semaines. Il y a eu 3 millions de manifestants, 3 millions et demi. L'intersyndicale est sous pression et appelle à une nouvelle date rapide pour le coup. 28, ils sont trop forts intersyndicales, ils notent dans leur communiqué, l'exécutif cherche à tourner la page. Moi je pose la question, l'intersyndicale, est-ce qu'elle était déjà pas prête à tourner la page à ce moment-là, le 23 mars? Donc mardi 28, Pierre Barger et Martinez proposent une médiation d'un mois. Il faudrait que Macron suspende son attaque pendant un mois. C'est une façon de dire qu'il faudrait qu'on suspende la grève pendant un mois. Donc c'est pas Berger qui tire l'intersyndicale à droite, c'est le duo Berger et Martinez qui disent effectivement il faut que la lutte s'arrête. Et donc il faudrait que les travailleurs arrêtent de lutter aussi. La 12e journée, le 13 avril. Donc c'est la veille du rendu de la décision du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas d'appel à faire des trucs le vendredi 14 du coup. Et donc, réponse, le conseil constitutionnel le pisse dessus. Réponse intersyndicale, on se retrouve le 1er mai, 17 jours plus tard. D'accord? Donc, dans 2 semaines. Donc, il n'y a pas d'urgence, tout va bien, quoi. Et donc, effectivement, après le pic du 23 mars, ce qu'on va voir, c'est que tout est fait pour que nous tournions la page. Et ils nous disent, quand même, cette équipe, que le 14 avril, retraite, ce n'est pas fini. Pourtant, c'était un peu l'enterrement, quoi. Et donc, on se retrouve le 1er mai. Le matin, avant la moindre manifestation, sur France 24, Sophie Binet, donc la dirigeante de la CGT, annonce que la CGT va se caler sur la date du 8 juin, date du débat parlementaire. Et donc, on voit bien que c'est pas la CGT qui dit « nous, on veut que ça soit dans 2 semaines » et la CFDT dans 35 jours. Et donc, il faut qu'on négocie. Non, c'est que Sophie Binet est déjà sur une proposition qui lui, dès le départ, quoi. Et donc, nous avons ce 1er mai, une journée historique. Alors, il y a une répression féroce ce jour-là. Effectivement, on est plusieurs à avoir fini en cellule ce soir-là et plusieurs à avoir appris au commissariat le lendemain que, effectivement, il y avait CNews dans le bureau du commissaire que, effectivement, l'intersyndicale, au vu du succès du truc, nous appelait à nous retrouver 35 jours plus tard. Quoi. Et donc, on voit bien que c'est un vrai coup dur contre les bases des syndicats, contre les activistes. C'était brutal. Certaines personnes qui étaient très engagées, en fait, ne se sont toujours pas remises de ce coup de l'intersyndicale. Moi, j'ai tout le monde au téléphone, il y en a plein qui me disent « j'ai arrêté, j'y crois plus, c'est dur, etc. » Donc bilan de cette semaine-ci là. Dimanche, il y a eu des décrets d'application de la loi Borne, enfin deux décrets qui sont tombés le matin, là, donc sur l'instruction des régimes spéciaux et compagnie. Et lundi, il y a effectivement Binet qui supplie la chef des macronistes là, à l'Assemblée nationale, voilà, de effectivement les écouter, de faire en sorte d'organiser un débat démocratique, je ne sais pas quoi. La même journée, les différents syndicats ont rencontré le patronat pour se mettre d'accord sur un agenda de mesures de destruction de nos droits. Donc oui, ils n'ont pas rencontré Macron, ils vont directement le MEDEF pour discuter d'un calendrier pourri. Donc ça, c'est une trahison, ce truc-là. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de mobilisation des militants, des syndicats pour que cette journée soit un succès. Et bien, malgré tout, il y a encore eu 900 000 manifestants dans toute la France, avec là aussi une répression très brutale. C'est-à-dire que les gens sont quand même emparés de cette date, et c'était quand même un succès, malgré le contexte pourri, quoi. Et moi, ce que je trouve symptomatique, c'est que l'intersyndicale ne s'est pas réunie mardi soir. Elle se réunit seulement mardi 13. Donc là, on est vendredi soir. Et effectivement, je pense que ça lui permet à l'intersyndicale de ne pas prendre position sur qu'est-ce qu'on fait jeudi à l'Assemblée nationale. Donc si mardi soir, ils seraient réunis, ils auraient pu dire, effectivement, jeudi, on appelle tous les Français à se réunir devant l'Assemblée, les mairies, etc. La réunion n'a pas eu lieu, donc cet appel n'a pas eu lieu non plus, quoi. Bilan de ces 6 mois. Il y a une puissance de la grève, de grève puissante de certains secteurs, donc les raffineurs par plusieurs fois en 5 ans, les grèves de 2020, les émeutes des gilets jaunes, ont permis de reculer les projets du gouvernement. L'intersyndicale est impuissante à la mobilisation, elle ne veut pas de la grève générale, elle a peur que ça déborde. Macron et la bourgeoisie ont également peur que ça leur pète à la figure, ils ont dû reculer, repousser, etc. Macron, il n'est pas sourd, il fait en fonction du rapport de force. Chaque dirigeant intersyndical a peur de ses bases respectives. C'est pas la CFDT le problème, c'est pas la CFDT qui pousse l'intersyndicale à droite, c'est la majorité des dirigeants syndicaux, CGT compris, qui sont sur la même position. Et donc il y a un double discours, nos dirigeants syndicaux disent qu'ils ne tournent pas la page, mais il semble qu'ils fassent exactement l'inverse, quoi. Deux éléments encore, avec une grève générale tous ensemble au même moment, on peut gagner. Moi ce que je vois quand même, c'est que la grève et les militants ont une influence sur leur direction. Et donc sur cette base, effectivement, on a sorti le texte qui s'appelle « Ne tournons pas la page ».
Les machines s'envoient en l'air dans l'église, qu'elles parlent fort. À table, nous mettent minables au Scrabble. Qu'elles repassent des diplômes, qu'elles nous fassent des tartes pommes ou qu'elles glandouillent au soleil. Si elles ont un peu la flemme, on s'arrêtera pas là. On veut entendre les cris de joie dans les parcs en été. Des quinquas libérés, les cheveux gris au vent, courant à poil vers le levant. Qu'ils puissent écrire et faire des rondes et réfléchir.
Ce texte, on nous pose beaucoup de questions dessus et on va essayer de vous répondre à ces différentes questions. La première question qu'on nous pose, c'est qu'est-ce qui est écrit dans votre texte ? Non, parce que c'est long, hein, je ne sais pas qui l'a écrit, hein, mais c'est très long. Mm-hmm. Je ne vise personne. Je ne vais pas reprendre tout ce que Loïc vient de dire, mais en fait, le plus important, c'est les deux petites lignes à la fin, là. C'est ce qu'on demande à l'intersyndicale. En fait, tout ça, c'est une démonstration que Loïc vient de vous refaire, pour dire stop. Stop, maintenant, vous arrêtez d'aller parler avec Macron, avec le MEDEF, avec tout le monde. Vous arrêtez les bilatérales. Première chose. Deuxième chose, vous savez faire une grève générale, même si tous les syndicats nous disent on n'a pas le bouton pour la grève. Si, si, le bouton, on peut le trouver, c'est facile. Vous la préparez, vous la structurez, vous la financez. Nous, on est là, on veut le faire. Les gens veulent un mouvement de grève générale. Il y a des enseignants, par exemple, qui sont restés en grève pendant un mois et demi Alors, entendre l'intersyndicale leur dire « Ouais, ouais, on vous soutient, allez-y, on vous soutient », c'est juste pas supportable, quoi. Donc, il faut que ça parte de là-haut, parce qu'il y a une structure, il y a une organisation, qu'on a besoin de cette organisation. Donc, c'est à eux de faire en sorte de permettre ce que leur base leur demande. Donc, on veut pas qu'ils tournent la page. Nous, on veut continuer. L'objectif du texte, en fait, au-delà de l'interpellation de l'intersyndicale, ben, c'est de faire tomber ce projet de pourri de réforme des retraites. Il faut que ce texte soit abrogé, c'est pas possible. Alors, il y a des moyens pour ça, pour y parvenir. C'est bah, de mettre la pression sur l'intersyndicale. Loïc l'a dit, hein, c'est une question de rapport de force. Macron, il fait avec le rapport de force. Si en face de lui, il a des mous du genou, eh ben, ça va pas marcher. Si par contre, on lui met en face des gens déterminés, des gens qui sont impliqués, à un moment, il y a une chance qu'ils réagissent. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on continue à être mou comme ça, il ne réagira pas. Je ne sais pas si un mouvement de lutte peut permettre d'obtenir quelque chose. Je sais une chose, c'est que ne rien faire, c'est la certitude qu'on n'obtiendra rien. C'est évident. Et une autre question qu'on nous pose souvent, c'est « Mais en fait, vous êtes anti-syndicaux, non ?» Non, non, la plupart d'entre nous sommes syndiqués, dans des syndicats différents d'ailleurs. Ce n'est pas les syndicats qui nous posent problème, c'est ceux qui sont à leur tête. C'est les vendus qui viennent de nous trahir, là. On veut qu'ils écoutent leur base, qu'ils fassent leur boulot, qui est de répondre à la demande de la base. Donc on n'est pas du tout anti-syndicat, il n'y a pas de problème. Et on ne propose pas une alternative au syndicat, on ne propose pas de créer un parti politique ou de créer quoi que ce soit. Non, ce qu'on veut juste, c'est qu'eux fassent leur boulot. Alors qui peut signer ce texte? Bah, tout le monde. Hein. À la base, on voulait que ce soit les syndiqués, puisque le principe, c'est donc de faire remonter la demande. Et puis, en fait, tout le monde s'y intéressait. On a vu à notre stand l'autre jour que les gens faisaient la queue pour signer, même des gens pas syndiqués. Du coup, bah, si les gens veulent signer, on les laisse signer, hein, bien sûr. Donc, on est en train d'élargir au maximum notre public. Alors, pour faire signer ce texte, bah, la première chose qu'il fallait, c'est qu'on ait des premiers signataires. Hein. Voilà, on ne lance pas un texte comme ça sur lequel il n'y a aucune signature. Personne ne va s'y intéresser. Donc, on a fait un gros travail de mobilisation des forces, d'abord au sein des bloqueurs de la Tirue d'ici. Puis on a élargi un petit peu à nos amis jusqu'à ce qu'on ait un nombre relativement représentatif, hein, les 56 noms qui sont affichés sur la porte. Et grâce à ça, en fait, on a pu commencer à diffuser. Alors on a diffusé sur nos réseaux. On a tous des réseaux, on s'est tous structurés avec des... On a rencontré des potes qui avaient des potes, qui avaient des potes, et voilà. Et comme ça, on diffuse les messages sur nos réseaux. On a créé une page Facebook, Ne tournons pas la page, qui commence à avoir pas mal de vues. On a fait un billet de blog Mediapart. Un billet de blog, en fait, c'est pas suffisant, il nous faudrait un article, pour ça il nous faut des journalistes. Et puis, on a fait aussi un billet de blog sur Paris Lutte Info. Alors, juste la veille de la manif, hein, ce qui était plutôt un bon calcul, puisque les jours de manif, tout le monde va sur Paris Lutte Info pour connaître le nom des avocats de la Legal Team, de service, etc. Donc, ça nous a rapporté effectivement une bonne visibilité. Alors, parmi les signataires, il y a tout. On a des cheminots, des conducteurs RATP, des agents de la propreté, des énergéticiens, des informaticiens. On dirait un texte de Philippe Catherine. Des ingénieurs, des étudiants, et je coupe le son. Alors, parallèlement à ça, notre texte il s'adresse aux syndicats. Donc, on a écrit à des structures syndicales, hein, des unions départementales, des unions locales, des syndicats nationaux. Et on a écrit, en fait, pour le moment, à 1300 structures pour leur envoyer le texte, expliquer le but du texte en les invitant à le signer en tant que structure et à le faire signer à leurs adhérents. Voilà où on en est. Donc on va aussi sur des rendez-vous militants. On est allé à la fête de lutte ouvrière. On est allé aux manifs des lycées professionnels, comme tu disais. On est allé devant l'Assemblée nationale et à Solferino pour les lycées pro, le jour de la présentation, de la pseudo-présentation du pacte pour les enseignants. On a fait diffuser des tracts à quelqu'un qui travaille chez Euro Disney. Hein, on a profité de la grève de Disney. On a fait les manifs du week-end antifasciste, donc la manif de commémoration de la commune, la manif antifasciste du dimanche. Au total, on a distribué plus de 600 tracts sur ces deux jours, etc. On a une copine qui a participé à la manif du 6 juin à Quimperlé. On a un autre qui s'est déplacé jusqu'à Toulouse pour aller chercher des contacts. Là, actuellement, on en est à combien ?
250 syndicalistes et 250 non syndiqués.
500 signataires pour le moment. En l'espace de moins d'un mois, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Pour la manifestation de mardi dernier, on a fait un stand sur le parcours principal. On a soigneusement choisi notre emplacement, on a mis des banderoles un peu partout. On a distribué 2300 tracts. On a récolté 330 signatures ce jour-là. Les gens faisaient la queue pour signer. Donc il n'y avait pas que des Parisiens, il y avait des provinciaux. Tout ça, ça prouve bien qu'on répond à une attente, quoi, à un besoin. Et on va essayer d'y répondre.
La question, je pense qu'il faut, quand on aura nos 300 syndicalistes, on peut envoyer un premier mail à l'intersyndicale pour les prévenir qu'on existe. Je pense que ça peut être ça les échéances, donc ça devrait arriver d'ici la fin du week-end. Je suis syndiqué à la CGT des profs des Yvelines, ouais.
C'était la dernière fois, j'enlève mes gants, mes chaussures de sécurité. Une dernière fois, je l'ai appris par courrier. Bien sûr, on s'en doutait que la boîte tournait plus, qu'elle vendait plus, qu'elle s'endettait, mais il restait un espoir. Infime et naïf maintenant, c'est à ma famille que je dois l'annoncer ce soir. Je file les blocages de jour et demi, n'ont rien pu faire. Le monde appartient toujours à une poignée d'actionnaires. Je pointe, ne me retourne pas, rentre à la maison, pas fini de payer trop. Noir est l'horizon, il me reste 10 ans de délai. Quelle hypothèse, à part l'hypothèque, l'ambiance est grave, soir, même les enfants se taisent. Il va falloir serrer les coudes, tout comme la ceinture. Fils, oublie le scout, la façade passera de peinture. Je m'empêche de pleurer devant mes proches. Dieu fait que je reste fort face à cette nouvelle épreuve. Écoute le silence de mon licenciement en vide, immense pantalon dans ce bâtiment de ciment. La machine s'est arrêtée, c'était la dernière fois. J'enlève mes gants, mes chaussures de sécurité. Écoute le silence de mon licenciement en vide, immense pantalon dans ce bâtiment de ciment. La machine s'est arrêtée, c'était la dernière fois. J'enlève mes gants, mes chaussures de sécurité, une dernière fois.
Après la présentation, quelques réflexions et les motivations pour rejoindre une critique publique des stratégies des appareils syndicaux.
Alors moi, je suis parti de ceux qui ont été sur le piquet de grève de la Thierry, mais je suis aussi parti des structures syndicales, vu que je suis le secrétaire général de l'Union locale d'estime, donc la MAR. En tant que responsable, petit responsable syndical, mais quand même bien visé par le texte, quoi. Donc, bon, là, c'est ce qu'il appelle avoir le cul entre deux chaises. Par contre, je lui ai dit, bon, bah, je vais le soumettre à la commission exécutive de mon duel, parce que, normalement, la CGT, c'est démocratique, et j'ai mis une semaine à faire un framadate pour l'envoyer à la commission exécutive. Apparemment, ils sont déjà en vacances. J'ai fait un autre framadate pour leur dire quelle est la prochaine réunion pour la prochaine date de réunion de la commission exécutive, pour en parler de ça, justement. Pas de réponse, donc je leur ai dit, bon, bah, je ferai la prochaine commission exécutive après les vacances, en septembre, et puis là, pour le texte, bah, je vais faire tout seul, je vais répondre tout seul. Hein. L'enjeu, c'est quand même de pouvoir diffuser toute la structure du UL. On a quand même 1 000 000 d'adhérents. Au niveau du territoire, CGT, ça peut être intéressant de les toucher par celui-là. Et je peux envoyer aussi à toutes les UL du 92, dont j'ai les adresses, évidemment. Ça sert à quelque chose quand même d'aller aux réunions UL 92.
Donc Isabelle, prof de français, syndiquée chez FO. Vous avez là la moitié des grévistes de mon établissement scolaire. Du coup, je me suis dit, s'il y a une manière d'agir, c'est peut-être pas forcément dans mon établissement, c'est peut-être en allant aider les copains qui ne peuvent pas forcément faire grève pendant un mois et demi. Donc je me suis mis en grève et je suis venue à la Thierrue d'ici, profitant de mon statut privilégié de fonctionnaire, pour pouvoir aider les salariés qui étaient plus en difficulté et pour faire grève, qui risquaient leur poste. Voilà.
Moi, c'est Stéphane, je suis prof en lycée pro agricole.
C'est quoi tous ces profs ?
Voilà, je suis assu de Rural Territoire, Île-de-France. Puis je suis comme Isabelle, je suis la moitié de mon lycée en grève, quoi, parce que même le SNETAP FSU ne vient pas aux manifs. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé dans cette structure, quoi, pour être avec des gens qui bougent.
Alors moi, Isabelle, donc moi je n'ai pas été gréviste, malheureusement, vu que je ne peux plus être gréviste puisque je suis retraitée maintenant, depuis 2019, mais je suis une ancienne prof de lycée pro. du 93. Je suis syndiquée SNUEP FSU. Donc le SNUEP, c'est le syndicat de l'enseignement professionnel dans la FSU. Ce dont je ne suis pas particulièrement fière d'ailleurs. Ben voilà. Moi, j'ai été très intéressée par ce texte. Je rejoins aussi l'analyse qui a été faite. Ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que tu as dit, Loïc, c'est que effectivement, cette histoire de journée saute-mouton, comme on dit, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Là, on nous l'a déjà fait X fois. Et on sait très bien comment ça se termine. Ça se termine toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on se fait tout le temps avoir. Et que leur histoire de calendrier, là, de journée saute-mouton, c'était quand même vachement bien calculé. Alors c'est vrai qu'il y avait aussi le rapport avec l'Assemblée nationale, mais ça tombait très bien parce que tout ça, ça nous a quand même amené au mois de juin. Et qu'on sait très bien qu'au mois de juin, les grandes vacances, entre guillemets, commencent, et qu'à partir de là, c'est excessivement compliqué. Moi, je vous dis chapeau d'avoir lancé ce truc-là. On arrive là à un moment, c'est pas l'été qu'il y a des grands mouvements, au contraire, ça casse tous les mouvements. Est-ce qu'on a la capacité de dire, en septembre, on repart? Ça s'est jamais vu dans l'éducation nationale, hein, en 2019, quand on avait fait la grève des examens. Il y avait quand même un mouvement qui avait perduré pendant les grandes vacances. Et finalement, on n'a pas réussi à repartir réellement après. Voilà, donc on est quand même dans une situation qui est excessivement compliquée. Donc moi, le texte, je l'ai fait connaître autour de moi, à mes contacts, etc.
Donc c'est Charles Meunier, donc retraité, donc j'ai pas eu besoin de me mettre en grève. Hein. On n'a pas besoin, mais on sait que les retraités, ils sont des bons soutiens quand il y a des piquets de grève, et notamment la Tiru, donc c'est à la Tiru que j'ai commencé, et fort de ce succès, et dans cette originalité, parce qu'on était des piquets de grève extérieurs à une entreprise, donc ça, et non syndiqué, moi je suis ex-syndiqué, mais pas syndiqué activement, on est dans un mouvement original, spontané, en 68 on disait spontex, qui se structure, et je pense qu'il y a du potentiel. L'histoire qui se répète et qui s'englue, etc., je pense qu'il faut qu'on essaye de l'oublier, et je crois qu'on commence à se structurer justement pour trouver des solutions à, comment perpétuer le mouvement. Parce que ce qui est important, c'est de perpétuer le mouvement dans la longueur, et tenir. Un des petits objectifs que l'on peut avoir, c'est que ce thème de la retraite, ce soit toujours un thème d'actualité dans les prochaines élections. C'est diffus, c'est lointain. Mais si on arrive à ça, ce sera une victoire importante. Que ça s'oublie pas, que ça se noie pas. Et c'est un thème qui touche tout le monde. Donc si on est là, si on est la flamme qui rappelle à chaque fois qu'il y a ce problème et que toutes les luttes qui existent sont liées aussi à ce problème de la retraite, on aura une grande victoire. De mon point de vue, il faut être modeste, on peut faire plus. Mais déjà ça, ce sera une bonne chose. Que ce thème reste d'actualité en permanence dans les têtes de tout le monde.
Je ne suis pas habituée à parler en public, donc ça va être beaucoup plus court. Sophie, mais je travaille dans une université, non, je ne suis pas prof, je suis personnelle administrative. Et en fait, j'ai fait la même chose que vous, mais ailleurs. La Tiru, c'était à Ivry, toutes les casseroles, donc on s'est croisés, et je vous ai vu sur la manif, et je ne suis pas syndiquée, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je suis un peu bête, et j'ai toujours pas compris l'intérêt de nous faire travailler 2 ans de plus. Et je m'accroche pour trouver d'autres idées. Sur les lieux de vacances, ben, il y a le Tour de France par exemple, et les casserolades, elles peuvent continuer d'une façon ou d'une autre.
Juliette, je suis chômeuse. Voilà, j'étais à la Tiru et là je suis en recherche de qu'est-ce qu'on fait après.
Moi je m'appelle Daniel, je suis prof documentaliste dans un lycée professionnel à Garges-lès-Gonesse. Où donc nous prenons la réforme du lycée pro dans la gueule. Je suis au SNES, donc un syndicat important mais mollasson. Je suis aussi à Émancipation, qui est une tendance intersyndicale en son sein. Et quand j'ai appris que vous faisiez cet appel sur la Tiru d'ici, j'ai trouvé que c'était vraiment un truc nécessaire. C'est un peu de cette manière que vous êtes les bienvenus dans ce local. Il existe depuis les années 70, mais il a été acquis récemment. Et donc, qui est géré de manière collective dans la volonté de faire vivre la tradition des bourses du travail, c'est-à-dire répondre aux besoins des travailleurs dans toutes les dimensions de la vie. Ce n'est pas seulement un truc syndical, c'est aussi une librairie, des archives, du yoga, des cours de français pour les sans-papiers, une AMAP, par exemple les brigades de solidarité populaire qui sont intervenues. On avait fait une maison de la grève ici, à l'époque des retraites 2019. Voilà. On a toujours essayé de combiner les salariés qui font la grève, ceux qui peuvent là où ils sont, et des gens qui bloquent quand ils ne peuvent pas faire la grève, mais qu'ils ont envie d'agir. Il manque cette interface, c'est ces collectifs locaux qui sont pour moi le ferment d'une nouvelle force. Et pourtant, dans des mouvements d'avant, il y avait eu des coordinations nationales et qui avaient été un défi pour l'intersyndicale, qui avait réussi à rythmer autrement pendant le CPE et tout ça. Et ça, on n'y arrive plus. Et même, je dirais qu'il y a à la fois quelque chose qui est énorme au niveau des gens qui y sont impliqués, à la fois quelque chose aussi de... Un certain nombre de gens... Je me bats, mais fataliste, et une certaine passivité, moins d'auto-organisation. Et de ce côté-là, il y a aussi une responsabilité d'organisation militante qui existe et qui prône cela et qui ont pu le mettre en œuvre, avec qui on a fait, quand on a fait l'AG Éduc Île-de-France, on avait fait un AG Interpro avec des militants du 92. C'était pas toujours passé très gentiment. Il y a des dynamiques qui ont monté, qui sont redescendues parce que ça fonctionnait pas de manière très fluide. Il y a aussi ceux du réseau pour la grève générale qu'on voit, qui font des choses très chouettes, très efficaces, et en même temps aussi des fois des problèmes de démocratie, d'intégration. Il faut que je conclue. J'ai deux points. Un, en tant qu'émancipation, en fait, qui est quand même une tendance nationale dont un certain nombre de membres soutiennent cette initiative et le fait qu'elle passe d'un statut local à un statut, bon, pour l'instant régional, quoi, à vocation nationale. Et qui passe d'un appel de signataire aussi à des gens qui se rencontrent et qui ont envie de dynamiser, d'exister publiquement et de prendre des initiatives, quoi, devenir un truc militant. C'est mon désir personnel et de membre d'Émancipation. À Émancipation, il y a des gens, peut-être qui le diront, mais qui voulaient aussi amender le texte. Alors je sais que ce n'est pas possible, mais je le dis quand même parce que ça reste une condition pour que la tendance à ce titre le signe. Et vous voyez que, par exemple, moi, je vais avoir un CDFN départemental de la FSU du Val-d'Oise. Ce serait mieux pour moi que la tendance de mon syndicat le porte, plutôt que moi en tant qu'individu. L'amendement principal, c'est, oui, sur la question de l'appel, c'est que, en fait, maintenant que... en fait, notre appel, c'est un truc qui se veut dans la durée. Et donc, si c'est dans la durée, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant... On prône l'organisation de la grève générale conséquente par l'intersyndicale. On sait qu'on parle à des oreilles bouchées, qu'elles pourraient être un peu étayer nos activités, nos propositions pour continuer. Il y a des luttes à soutenir pour qu'elles se généralisent. Des trucs que l'intersyndicale ne fait pas, si on peut commencer un tout petit peu à les faire, on a des camarades qui sont présents dans plein de luttes, et à faire connaître pour appeler d'autres. Voilà, je pense que c'est un peu dans cette direction qu'il faut aller. Et il faut un peu l'étayer dans l'appel, peut-être par exemple un supplément. Mais pour que les gens ils sachent, en nous rejoignant, vers où aller ensemble. Quoi. Voilà.
Je ne peux pas modifier un texte déjà signé.
Bah, moi, c'est Laurent. Je travaille dans une bibliothèque universitaire. Je suis syndiqué à la CGT FERSUP. Et en gros, je partage le constat que, sur l'action de l'intersyndicale qui est écrit dans le texte et ce que tu as rappelé tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je suis là, en fait.
Bon, alors moi, c'est Philippe. Alors, j'étais prof d'anglais en ZEP au lycée Joliot-Curie. Voilà, militant en dessus d'éducation et je suis aussi à Émancipation. Je suis très content de voir qu'on lance un mouvement qui certainement qui est nécessaire. Et ça fait longtemps que je milite. Je ne vais pas faire tout un topo, mais on a une direction. Enfin, notre état-major de lutte ne vaut rien. C'est systématique qui nous envoie dans le mur à toutes les luttes. La seule fois où ça n'a pas été un échec, c'est en 2006, mais c'était pour d'autres raisons. Sinon, depuis 2003, on va d'échec en échec. Alors c'est aussi pour ça qu'effectivement, moi je pense que ça joue un rôle, en tout cas, dans le fait qu'il y a un certain nombre
de personnes, des collègues dans l'éducation, mais dans d'autres secteurs aussi, qui sont hésitants à se mettre en grève. Parce que quand on voit des vagues de lutte sociale qui se terminent toujours par des défaites, la conclusion qu'on peut facilement en tirer, mais qui n'est pas la bonne, c'est que finalement, faire grève, se mobiliser, ça ne sert à rien. Il y en a plein qui arrivent à cette conclusion-là. Et donc je pense que ça, l'effet qu'on peut constater dans certains secteurs du fait que c'est difficile de se mobiliser, c'est aussi le résultat a posteriori de toute une stratégie de lutte foireuse qu'on nous a imposée avec des directions syndicales qui nous l'ont systématiquement répété à toutes les fois et qui font que maintenant c'est plus difficile. Mais je pense que ce n'est pas fatal. Je pense que ce mouvement, il a montré une grande résistance, une grande combativité. On voit dans toutes les casseroles et dans tous les piquets, tout ce qu'on a pu voir depuis le début de cette lutte, beaucoup d'énergie, beaucoup de niaque, de volonté d'en découdre, de volonté d'en finir avec ce freluquet qui est à l'Élysée et à son monde, cette espèce de bourgeoisie putride qui s'étale devant nous. Tout le monde en a marre de ça. Il y a vraiment un ras-le-bol qui s'installe et ça va bien au-delà de la question des retraites. Et moi, je pense qu'il faut appuyer sur le champignon. Le champignon sur lequel on peut aussi appuyer, c'est celui qui existe dans les structures syndicales en particulier, parce que dans ces structures syndicales, il y a plein de gens, des lutteurs et des lutteuses à la base et même dans les échelons intermédiaires qui veulent que les choses se passent différemment. Voilà. Et donc, si au sommet, on a des mous du genou, on a des gens qui sont prêts à capituler, ça on l'a vu souvent, et dans la base des syndicats, il y a plein de gens qui sont prêts à faire tout à fait autrement. Et ces gens-là, moi je pense qu'il faut leur donner la parole, il faut faire en sorte qu'ils s'organisent et qu'ils mettent la pression sur ceux qui nous envoient systématiquement à la déroute.
Alors, moi je vais être assez brève. Je suis Carmen, je travaille dans le secteur associatif, mais actuellement je suis au chômage. Je trouve surtout intéressant parce que ça ouvre des perspectives à un moment où il y a un sentiment d'arriver un peu en bout de course, un sentiment un peu de découragement. Je pense que ça donne un peu de l'espoir et je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je pense que là, on s'engouffre dans un mouvement qui va s'inscrire dans la durée et ce qu'il faut, c'est pas baisser les bras et rester mobilisé sans avoir peur de la période estivale qui arrive, hein, parce qu'on sait que la période estivale, elle est dangereuse parce que c'est un peu une opportunité pour faire taire les mouvements et faire en sorte qu'ils repartent par la rentrée. Mais le fait d'avoir des initiatives comme celle-ci sous la main, qui sont structurantes, ça permet aussi de se dire qu'on démarre quelque chose et que ça va évoluer sous d'autres formes et pour continuer la mobilisation, en tout cas.
Je suis portugais et mon français, c'est... je parle un petit peu. Je suis une activiste syndicale au Portugal. Je travaille à l'aéroport de Lisbonne. Je suis un activiste depuis 7 ans à la commission des travailleurs. Je suis aussi syndiqué, mais mon activisme, c'est l'entreprise. Je suis invité pour connaître un plus peu de la situation politique française. Deux choses que je veux exprimer. La première, c'est que la tradition de la bureaucratie syndicale, c'est toujours la même. Le même pays. Ce n'est pas ici une discussion pour ce moment, mais c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas la même chose en Portugal pour nous. C'est une situation politique déroute.
Défaite.
Et ici, c'est une situation politique plus animée. Et la seconde idée, c'est ça. C'est pour France, ce n'est pas Portugal. France, c'est comme l'Allemagne. La France et l'Allemagne, c'est l'Union européenne. Et pour un pays impérialiste comme la France, une défaite pour la classe travailleuse, c'est plus que la défaite de la classe française. C'est aussi une défaite pour la classe portugaise. Ce caractère de la importance de la lutte de la France est une carte qualitativement politique plus grande qu'une grève au Portugal. Comme c'est la révolution portugaise, c'est une chose très importante pour le monde, mais c'est la révolution existe en France, c'est plus différent aux États-Unis. C'est la idée que pour rester ici, c'est que la lutte n'est pas seulement vous, les Français, mais la défaite, mais malheureusement, la défaite, c'est de toutes les ouvrières européennes. Merci.
Je suis syndiqué AFO et je fais partie de cette bande depuis le début avec le blocage de l'incinérateur et tout ce qui s'en est suivi.
Olivier, moi je travaille dans un établissement bancaire, donc je suis syndiqué à la CFTC et j'ai signé un problème. La dernière manifestation, parce que je me demande ce qui va se passer maintenant, vu que le défaitisme est assez grand, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Et au syndicat, parce qu'il faut passer par eux, sinon, individuellement, on ne peut pas faire grand-chose, hein, je pense. Donc, il faut vraiment se bouger.
Bon, moi, je m'appelle Sylvie, je fais partie de la bande de la Tiru, ici, oui. Je suis retraitée. Je constate quand même une chose, c'est que si je suis là, c'est que pour moi, c'est une sorte de lutte à laquelle j'aspire depuis des lustres. Voilà. J'étais syndiquée aussi, même syndicat, FSU, CSNES, machin, où on n'attendait jamais rien de nous. Dirigeants syndicaux, de toute façon, on faisait ce qu'on voulait quand on avait envie de faire un truc. Mais là, c'est quelque chose d'organisé, c'est pas... voilà, c'est un truc qui s'organise, qui se monte, c'est un truc qui peut-être, en effet, finir par influencer quelque peu les visions, même des gens de l'extérieur, qui sont pas nécessairement des gens syndiqués, etc., etc. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est-à-dire, j'ai espoir que ce type de lutte intra, machin, inter, machin, etc., etc., ça va finir par prendre, et que ça va finir par s'étendre, et que chacun apporte ses idées, à la fois politiques, à la fois syndicales, à la fois tout ce qu'on veut, et voilà. Et on arrive à faire quelque chose qui finit par s'imposer par rapport au traditionnel syndicat, voilà.
Moi, c'est Emma, je suis prof de philo, dans le 93, syndiqué à Sud Éducation 93. Depuis pas très longtemps, je n'ai jamais rien attendu des directions syndicales, voire même du syndicat tout court. J'ai pour souhait de passer un bel été, donc voilà, je suis là pour me donner un peu de force pour les mois à venir avant la rentrée qui, j'espère, va être explosive et je crois en la force populaire et en l'étincelle qui peut venir comme ça a eu lieu avec les gilets jaunes. Je trouve ça très bien, voilà, qu'on essaye de s'organiser, de se fédérer, mais je crois aussi à un mouvement spontané qui peut émerger parce que le ras-le-bol est là et va continuer à être présent à la rentrée. Voilà.
Et pour finir, nous allons vous lire le dernier communiqué de Serge par Serge. « Je m'appelle Serge et j'ai été gravement blessé, comme beaucoup d'autres, à la manifestation contre la méga-bassine de Sainte-Soline le 25 mars 2023. J'ai été atteint à la tête par une grenade, probablement tirée en tendu par un gendarme équipé d'un lanceur de grenades Cougar. J'ai subi un grave traumatisme crânien qui m'a mis en situation d'urgence absolue, situation aggravée par le blocage de ma prise en charge par les secours durant la manifestation. Après un mois de coma artificiel et 6 semaines en réanimation, j'ai été transféré dans un service de neurochirurgie, puis en centre de rééducation. À l'heure actuelle, je ressens d'énormes progrès dans ma faculté à bouger, manger et tout simplement échanger et réfléchir. Le chemin va être extrêmement long, mais je suis déterminée à tout donner, à me battre, pour récupérer ce qui me constituait tant physiquement que mentalement. Je le fais évidemment pour moi, mais aussi parce que je pense que refuser d'abdiquer, refuser d'être écrasé par la machine répressive est une nécessité politique à l'heure où les États font le pari de la terreur et de notre passivité. Je tiens d'abord à remercier celles et ceux qui, dans ce champ de mine, m'ont porté, tenu la main, protégé, promulgué les premiers soins, ralentissement de l'hémorragie, massage cardiaque, intubation. Ils m'ont tout simplement permis de rester en vie. Je tiens également à remercier les soignants qui, à chaque stade, ont pris soin de moi et m'aident encore aujourd'hui à reconquérir mon corps et ma tête. Je ne peux que vous faire part du bien fou que j'ai ressenti à ma sortie du coma devant la solidarité massive qui s'est exprimée. Assemblée, textes, tags, dons, musique, actions et messages divers de camarades de par le monde. L'écho de vos voix et des rugissements de la rue nous a aidés, mes proches et moi, à ne rien lâcher. Pour tout cela, je vous dis à tous et à toutes un grand merci. Vous avez été énormes. Tout ceci nous rappelle qu'il est primordial qu'aucun tabassage, qu'aucune mise en géole, qu'aucune mutilation, qu'aucun meurtre ne soit passé sous silence par les forces de l'ordre social capitaliste. Ils mutilent et assassinent tellement souvent que cela n'a rien d'accidentel. C'est dans leur fonction. Beaucoup trop d'histoires dans le monde nous rappellent qu'il n'y a pas plus vrai que la formule « ACAB ». Tous les flics sont bien des bâtards. Ils sont et resteront les larbins de la bourgeoisie dont ils protègent les intérêts et assurent jusqu'à maintenant la pérennité. La classe capitaliste a comme seule perspective la dégradation de nos conditions de vie à une large échelle et tous les prolétaires d'ici et d'ailleurs en font actuellement la mère expérience. Face aux luttes que nous menons pour contrecarrer ce funeste destin, ils ont clairement fait le choix d'augmenter drastiquement la répression, autant par des nouvelles lois répressives que par le fait de donner carte blanche aux forces de l'ordre, comme à Sainte-Soline. Nous devons en prendre acte et porter collectivement l'idée qu'il est hors de question de participer à une lutte sans des protections efficaces et des capacités de résistance. Nous ne sommes pas des martyrs. Néanmoins, notre force n'a pas grand-chose à voir avec une histoire de champ de bataille. Notre force, c'est notre nombre, notre place dans la société et le monde meilleur auquel nous aspirons. Contre les quelques organisations de dirigeants et de bureaucrates qui souhaiteraient nous ramener à la maison, une fois leur place au soleil acquise sur notre dos, il nous faut mille façons de nous organiser à la base, par et pour les solidarités concrètes, à destination des camarades du mouvement, mais aussi et peut-être surtout à toutes celles et ceux qui rejoindront les élans révolutionnaires futurs. Force aux camarades actuellement dans le viseur des...
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur 1, sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
États, vive la révolution et